Donc, bonsoir à tous. Content de vous retrouver pour une nouvelle session de notre étude sur le livre des Actes des Apôtres. Mais on va garder notre bonne habitude de prier avant d'intervenir, avant de regarder la parole de Dieu. Je crois qu'il n'est que de la norme de prier. Que notre Dieu nous assiste autant vous que moi. Donc, merci Seigneur, de me donner encore aujourd'hui l'opportunité, Seigneur, de prendre la parole avec ton peuple. L'opportunité, Seigneur, de regarder ta parole. Seigneur, je te rends grâce, Seigneur, du fait, Seigneur, que ton peuple, cherche la connaissance. Cherche la connaissance, non pas qui rempli d'orgueil, mais cherche la connaissance, comme tu dis dans ta parole, qui nous remplit, Seigneur, de cette grâce-là, de te connaître, de connaître ta volonté, de marcher avec toi. Seigneur, que ce temps que nous allons prendre à l'étude, Seigneur, puisse nous remplir, nous instruire, voire nous corriger peut-être, et je ne parle pas de correction dans le sens dur du terme, mais corriger peut-être notre pensée, notre vision, Seigneur, de ce livre, des Actes des Apôtres, et que ton peuple, Seigneur, puisse en tirer les dividendes, Seigneur, pour s'enrichir. J'ai prié dans le nom de Jésus. Amen. Donc, bien-aimés, on s'était laissé l'autre semaine. On avait vu d'ailleurs lors des 2 dernières semaines, particulièrement dans la dernière semaine, dont on a regardé le livre des Actes ensemble. On a regardé de façon schématique, si vous voulez, le schéma qu'empruntait ou qu'a emprunté Pierre lors de ses 2 premières interventions, on va dire, ses 2 prédications publiques où Pierre s'est adressé au peuple, la première étant celle lors de la manifestation de l'Esprit, lorsqu'ils ont été remplis du Saint-Esprit, il y a eu un bruit qui s'est fait, une foule a couru et Pierre a profité du momentum, si vous voulez, et a donné son premier message. On avait regardé quel schéma Pierre employait et je vous avais dit, même avec des variantes, ce schéma-là, on regarde employé par Paul, employé par d'autres, on voit que c'est d'abord faire rendre compte aux personnes qu'ils sont des pécheurs, qu'ils ont besoin de Christ. Ensuite de ça, leur donner le moyen, qui est la repentance, de sortir du mauvais pas. Et ce schéma-là qui était suivi, on va le voir encore là avec certaines variantes, tout dépendant, et comme je vous avais dit la semaine dernière, ça dépend aussi à qui on s'adresse. On adapte notre enseignement, notre prédication aux gens qu'on a devant nous. Et comme je vous avais dit la semaine dernière, certain que si on s'adresse à des gens qui ont déjà une connaissance de la Bible, une connaissance même un peu plus profonde, naturellement, on va employer une autre terminologie, on va entrer dans d'autres domaines de la parole que si on s'adresse à des gens auxquels on est en train d'annoncer le salut ou qu'on est en train d'annoncer le salut par grâce. Et je vous avais fait mention qu'un peu avant la pandémie, j'avais été invité par un groupe pastoral, c'est-à-dire c'était peut-être 8-9 églises qui avaient invité dans une église juste le groupe pastoral, les anciens, les femmes des anciens, ceux qui étaient en direction pour recevoir certaines formations, indications de la parole de Dieu. Et c'est certain que lors de mon intervention, qui durait environ 4 heures, on a coupé au bout de 2 heures et on a pris une pause, on a repris après. C'est certain que les éléments que je lui amenais n'étaient pas comme les éléments que j'aurais amenés lors d'une soirée, admettons, d'évangélisation. Soyons clairs. Donc, on ajuste le discours, mais le cœur du discours doit rester le même. Le cœur du discours doit rester le même, c'est-à-dire, même quand on enseigne, où on va donner des éléments à des étudiants pour approfondir leur connaissance, on doit donner quand même des éléments de base que la parole de Dieu donne. C'est-à-dire, ici, on parle pour des gens non convertis, les éléments de base qui étaient là, naturellement, c'était ces gens-là ont péché, ces gens-là ont besoin du salut, Jésus est le moyen du salut, repentant, et ensuite de ça, marche chrétienne. Soyons bien, bien clairs. On s'était laissé en voyant la dernière fois, et je vous ai dit qu'on regarderait aujourd'hui, on va avoir le temps de se rendre plus loin que ça, mais on regarderait aujourd'hui, entre autres, comment ces gens-là ont réagi au message. Les premiers avaient réagi en disant « Hommes, frères, que ferons-nous? » Et Pierre leur avait dit « Repentez-vous, si vous vous rappelez, lors de la Pentecôte. » Ici, c'est la guérison, on avait terminé par cela, la guérison d'un homme qui était boiteux, qui était à la belle porte du temple, qui était là tous les jours, qui était connu de tous. Et je vous avais dit que dans ces temps-là, l'aumône était un acte de piété, n'était pas une bienfaisance sociale seulement. Aujourd'hui, quand les gens donnent à différents organisations, voire à des gens qui sont dans le besoin, qui sont souvent devant les commerces et ainsi de suite, et c'est OK, je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas OK, les gens le font généralement pas en disant « je fais un acte de piété en donnant », ils vont dire « oui, un acte de bonté, oui, un acte de sollicitude envers l'autre, voire un acte pour donner un sens social au lieu où je me trouve en aidant une autre personne. » Mais dans ce temps-là, quand on plaçait une personne comme ça à la belle porte du temple, donner devenait un acte pieux, un acte de piété. Et c'est avec cela que je vous avais laissé. Et Pierre, Jean monte à l'heure de la prière au temple, voit ce boiteux-là. Pierre lui adresse la parole en lui disant « Je n'ai ni argent, ni or, mais j'ai quelque chose. » Il dit « Et ce que j'ai, je te le donne. » Comme un acte de piété, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi, marche, le prenant par la main droite, le fait lever d'un bond, les chevilles du boiteux deviennent fermes et le boiteux les suit, le boiteux qui n'est plus boiteux, les suit en entrant dans le temple, louant Dieu et bondissant. Et on va voir maintenant la réaction des gens et le message qui va être donné. À partir du chapitre 3, parce que c'est là qu'on était rendu, mais du verset 11, c'est la suite de ce qu'on a pris la semaine dernière. Là, je vous ai fait encore un peu une mise en situation. Je vous ai ramené un peu à ce qu'on avait regardé. À partir du verset 11 jusqu'au verset 26, c'est la prédication qui est là. Verset 11, « Comme ils ne quittaient pas Pierre et Jean, tout le peuple, étonné, accourut vers eux au portique dit de Salomon. Pierre, voyant cela, dit au peuple, « Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâchât. Vous avez renié le saint et le juste. Vous avez demandé qu'on vous accordât la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie. Dieu l'a ressuscité des morts, comme nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et que vous connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de ses prophètes, que son Christ devait souffrir. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qu'il a destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche des saints prophètes. Moïse a dit, « Le Seigneur, votre Dieu, vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Tous les prophètes qui ont successivement parlé depuis Samuel ont aussi annoncé ce jour-là. Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères en disant à Abraham, « Toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. C'est à vous, premièrement, que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses iniquités. » On voit que la structure du message ressemble au premier message que Pierre a donné. Et ici, ce n'est pas du verset par verset que je fais avec vous. Je ne ferai pas une étude systématique de chaque verset, sinon eh bien, le cours de Actes des apôtres durerait pendant longtemps. Je vous tire encore une fois, comme j'ai fait avec Apocalypse, les grandes lignes pour vous donner une connaissance générale du livre et pour vous donner des éléments aussi pour fortifier votre foi, pour vous aider dans votre travail de la grande évangélisation ou de la grande commission que Jésus nous a donné à faire, et aussi pour que ce livre-là puisse construire en vous une bonne disposition au service des saints. Là, on est rendu, depuis le début, quasi à une organisation profonde de l'Église, et on est rendu à regarder beaucoup l'évangélisation. Tantôt, on va rentrer beaucoup plus dans l'organisation plus profonde et on va regarder les défis qu'ils ont dû relever. Et c'est pour cela que je ne veux pas m'attarder trop longtemps sur un seul sujet, parce que le livre des Actes en traite plusieurs. Donc, qu'est-ce qu'on y voit ici? Pierre et Jean, après avoir exécuté le plan de Dieu en faisant obtenir cette guérison-là à cet homme-là, entre dans le temple avec l'homme. Les gens reconnaissent que cet homme-là était celui qui était assis à la belle porte. D'ailleurs, Pierre, il va bien leur mentionner. Comment Pierre va introduire sa prédication? Pierre va commencer par dire, ce n'est pas par notre piété, ce n'est pas par nos bonnes œuvres. Et pourtant, donner est un acte de piété, je vous l'ai dit au départ. Donner une guérison était encore quelque chose de plus grand pour eux. Et Pierre va dire, ce n'est pas par cela, ça n'a pas passé par cela. Et Pierre va ramener ses auditeurs encore une fois à ce qu'ils connaissent. Quand je vous disais la semaine dernière, de souvent partir par ce que la personne connaît. Exemple, ici au Québec, souvent on va partir à partir du catholicisme, ou on va partir, tout dépendant de notre interlocuteur, d'une certaine connaissance de Dieu général pour amener les personnes au Dieu vivant, à Christ. Eux ici, qu'est-ce qu'ils connaissaient? Pierre va dire au verset 12, homme israélite, pourquoi vous étonnez-vous? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous comme si c'était par notre propre puissance ou par notre propre piété que nous eussions fait marcher cet homme? Verset 13, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, il leur donne des points de référence, des points de référence qu'eux peuvent se reconnaître, se centrer. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus. Les gens étaient au courant de l'Ancien Testament. Les gens qui étaient dans le temple, naturellement, s'ils se trouvaient dans le temple, c'est qu'habitait en eux une certaine croyance, habitait en eux une certaine connaissance. Quand je dis souvent aux personnes, quand vous vous adressez, et les personnes, des fois, trouvent ça étrange que je vais m'asseoir et je vais demander le métier de la personne. Quand je parle avec des personnes, au début de ma conversation, j'ai été invité chez des bien-aimés avant la pandémie. Ils voulaient que je parle un peu à leur famille. Ils avaient réuni leur famille. C'était un souper du temps des fêtes. Et je vous avais dit que ma femme, me connaissant bien, m'a assis juste avec des gens qui ne connaissaient pas l'Évangile. Et j'ai commencé tout doucement à demander « Qu'est-ce que vous faites dans la vie, vous, monsieur? » Et tranquillement, prendre un peu le pouls de ces personnes-là. Eux se trouvent dans le temple, regardent les gens et leur donnent par la prédication avec ce qu'ils connaissent, avec ce qu'ils sont capables de gérer. Ce qu'ils sont capables de gérer, quand il nous dit le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le Dieu de nos pères, s'identifie à glorifier son serviteur Jésus. Donc, ces gens-là étaient au courant des deux faits, de l'Ancien Testament, et ça faisait pas si longtemps que ça s'était passé à Jérusalem, la crucifixion de Jésus, pour que les gens aient déjà oublié. Et il va les placer devant une évidence. Et c'est pour cela que je dis des fois, le message est difficile, mais le message doit être, on le lit nous autres des fois comme ça, des fois le message est difficile. Imaginez-vous ces auditeurs-là qui sont là, qui sont en train d'écouter ce que Pierre est en train de leur dire. Quand je dis aux gens, il faut donner la parole telle que la parole est. Appeler un chat un chat. Vous comprenez ce que je veux dire? Sans tomber ni dans la vulgarité, naturellement, ni dans l'attaque personnelle, on doit donner la parole telle qu'elle est. Et c'est ce que Pierre va faire ici. Pierre va dire ici, dans le verset 13, la partie B du verset, il dit « À glorifier son saint serviteur Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate, qui était d'avis quand on le relâcha. » Il met la responsabilité sur son auditeur. Je disais à un moment donné à des gens à qui je m'adressais, je dis, je prends le temps avec vous pour faire l'œuvre de Dieu, mais d'abord parce que vous êtes des âmes et que vos âmes, ça n'a pas de prix. Et que je crois comme un devoir de vous dire que vous êtes perdus. Ça a été aussi direct que ça. Je crois comme un devoir. Pourquoi? Parce que j'ai déjà été perdu dans votre situation. Et j'avais construit un peu mon intervention autour de cela. Pierre ici construit son intervention autour du fait que Jésus a été crucifié. Il dit « Que vous avez livré? » Parce que le peuple, donnant son aval, a participé à la condamnation de Jésus. Verset 14, il va dire « Vous l'avez renié, le juste. » Vous avez demandé qu'on vous accordât la vie d'un meurtrier. Il a appelé un chat un chat. Est-ce que vous pensez que c'était facile pour les auditeurs d'entendre cela? Sûrement que non. Mais ces choses-là, à ce moment-là, dans le but précis où Pierre allait le faire, et vous allez voir après ça comment il va diriger son message, c'était nécessaire de les mettre en face d'une évidence, d'une réalité. Très désagréable. Il y a quelquefois, on a à s'adresser à des gens où on a des choses désagréables à dire. On a des choses difficiles à dire. Des fois, à des gens non convertis, et même quelquefois à des gens convertis, des gens qui connaissent l'Évangile, à qui on a à dire des choses qui ne sont pas évidentes à dire. Des choses qui peuvent être très, très, très mal reçu par la personne, mais qui ont besoin d'être dites pour que la personne se rende compte ou réalise la gravité de son geste ou réalise dans quelle situation elle se trouve. Et c'est de là que je dis, sans parler durement, on doit parler franchement, on doit parler fermement. On ne parle pas de bousculer tout le monde et de jeter tout le monde par terre. On parle tout simplement de dire les choses telles qu'elles. Et c'est ce que Pierre a fait. Et c'est ce que Pierre a fait. Pierre commence son message par leur dire, vous l'avez livré à Pilate, vous l'avez renié, non seulement vous avez fait ça, mais vous avez aussi demandé qu'on vous relâche un meurtrier. Il dit, vous avez demandé la grâce d'un meurtrier au verset 14. Il dit, vous avez fait mourir le prince de la vie. Et son message va commencer ici d'une autre façon en disant, attendez, là, je ne sais pas comment contrôler ce petit bruit-là que j'ai. Je crois que je vais l'avoir. Et voilà, je suis un technicien à partir de maintenant. Pierre va commencer à partir de là un message un peu plus doux. À partir de leur avoir dit une vérité crue pour les secouer, pour les attirer l'écoute, pour les amener à réaliser le geste posé. Et ça marche pour les inconvertis, puis ça marche pour les convertis. Des fois, il faut te dire, mon frère, ma soeur, ce que tu as fait là, ça s'appelle du péché. J'ai déjà dit une fois à quelqu'un, il me dit, s'était passé quelque chose, il était tombé dans l'adultère, il dit, je suis tombé. Je dis, non, tombé, c'est pas ça. Et je lui ai donné des détails, puis ben, la personne était rouge, là. Et j'ai dit, on ne minimisera pas le geste. Dieu pardonne, pas de problème. Mais si tu commences à me dire, oui, c'est un accident. Et un accident, là, je suis dans ma voiture et je fonce de façon délibérée sur une autre voiture, ce n'est pas un accident, c'est un acte criminel, soyons clairs. Si je conduis ma voiture et le volant me reste dans les mains, puis que je fonce dans une autre voiture, c'est un accident. On se comprend bien. C'est applicable à bien d'autres choses. Donc, Pierre va leur mettre les choses, passez-moi l'expression, directement au visage, dans la face. Il va dire, vous l'avez renié, vous l'avez fait condamner, vous avez demandé la grâce d'un meurtrier. Et il va dire, mais Dieu l'a ressuscité et dit, nous en sommes témoins. Là, il se présente comme des témoins. Nous en sommes témoins, au verset 15. Et à partir de là, il va donner le témoignage de la guérison du boiteux. Il va dire, c'est par le nom de Jésus, c'est par la foi en son nom que vous voyez cet homme avec une entière guérison. Donc, le plan, il leur met la situation telle qu'elle est, leur situation. Ensuite de ça, il va prendre la situation du boiteux qui a été guéri. Il va dire, c'est grâce à Jésus, à la foi dans le nom de Jésus que cet homme-là a été guéri. Et à partir du verset 17, il lui donne le moyen de sortie. Et c'est là que je dis que le message change de ton. Verset 17. Et maintenant, frère, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs. Je sais que vous avez agi par ignorance. Comme je disais un jour à un homme, je dis, je sais c'est quoi vivre comme tu vis. Pas dans les mêmes péchés. J'ai déjà vécu dans le péché. Maintenant, j'essaie de vivre hors du péché. Ça ne fait pas de moi un homme parfait. Mais j'ai dit, je connais ta pensée. Moi, j'ai déjà été à ta place. Toi, tu n'as jamais été à la mienne. Moi, j'ai déjà été à ta place, vivre sans Dieu. Donc, je connais ta pensée. Mais toi, tu ne peux pas connaître la mienne, parce que tu n'as jamais été à ma place. Tu n'as jamais vécu comme un converti avec la pensée de Dieu qui t'habite. Et Pierre va leur dire ici, je sais, frère, que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs. Mais Dieu a accompli. Il va se rendre un peu plus loin. Je garde toujours le même schéma. Pierre leur donne la vérité en face, leur dit que la guérison, le centre du message, ce qu'ils ont vu de leurs yeux, c'est grâce à Jésus. Suivant ça, il va dire, je sais que vous ne saviez pas. Suivant ça, qui va dire, je sais que vous ne saviez pas, il va dire, de cette façon-là, Dieu a accompli un plan. De cette façon-là, Dieu a accompli ce qu'il se proposait d'accomplir, ce qu'il se proposait de faire avec vous. Et le verset 18, qui est le cœur ici du message, avec le verset 20-21, Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de ses prophètes, que son Christ, et ça ici, ce n'est pas à la prendre banal, que son Christ devait souffrir. Là, il va lui insuffler le message différent qu'ils ne connaissent pas, qui leur est étranger, qui pour eux, comme quand nous, on donne le message de la grâce, qu'on prend quelqu'un. J'étais en train cet après-midi d'étudier l'épître aux Colossiens et d'écrire un petit peu à propos de cela. Il y a un frère qui me demandait dernièrement, est-ce que tu pars toujours? C'est parce que tu as beaucoup de pages. Je dis non, je ne pars jamais de zéro. On doit dire les choses telles qu'elles sont. Je pars jamais de zéro. Il y a des gens beaucoup plus intelligents que moi qui ont écrit des textes qui peuvent nourrir ma réflexion, qui peuvent nourrir mon écrit. Et je m'en sers, et je m'en sers abondamment. Je n'ai pas la prétention d'avoir toute la connaissance, et je prends tout ce que Dieu met à ma disposition pour que vous soyez enseignés. Et Pierre va prendre beaucoup dans l'Ancien Testament. À partir de là, il va s'en servir. Mais la donne qui leur dit ici, qui est pas banale, là, qui pour nous peut sembler banale, c'est un peu comme quand on prend quelqu'un. Et je vous disais que je suis en train d'étudier Colossiens et j'ai été voir un peu les écrits d'un auteur que j'aime bien qui parlait un peu sur le catholicisme et qui disait bien, quand on annonce un peu le salut par grâce à un catholique, c'est quelque chose d'inconcevable pour lui parce qu'il faut produire. Il faut produire pour le salut. Pas comme le pasteur Florent vous disait, là. Le pasteur Florent était exactement pile dans ce qui devait être dit, là. Mais le pasteur Florent ne vous a jamais dit, eh bien, il faut que vous fassiez traverser au moins trois personnes âgées par jour pour obtenir le salut. Ou, ce que les religions enseignent, OK? Soyons clairs, là. Je suis bien solidaire avec le message d'hier. Mais ce que je veux vous dire, c'est que je regardais un peu ce que cet auteur-là disait. Il disait lui-même que pour quelqu'un qui est très enraciné dans le catholicisme, de lui dire le salut est gratuit, tu n'as rien à faire, tu as accepté Jésus comme Seigneur, Sauveur, personnel. Ensuite de ça, il y a des œuvres là-dedans, mais on parle de ton salut, c'est quasi inconcevable pour eux. Eh bien, pour eux, les Juifs à qui Pierre s'adressait, qui leur disent. Au verset 18, Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes que son Christ devait souffrir. Ce n'est pas la mentalité, ce n'est pas la connaissance, ce n'est pas ce que eux savaient du Christ. Pour eux, le Christ qui devait venir était un Christ régnant. Et eux avaient évacué des enseignements, évacués de ce qui se disait au temple, dans les synagogues, le Messie souffrant. Ils l'avaient évacué. D'ailleurs, avant Jésus, il y avait des écoles de pensée dans les écoles rabbiniques et ainsi de suite, qui disaient que le Messie souffrant d'Ésaïe 53, c'était le peuple juif. Donc, ils avaient évacué cette portion-là. Évacué cette portion-là du Messie souffrant. Et Pierre leur dit, non, 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 non. Donc, ce que Pierre fait, n'est pas seulement qu'avant-gardiste, mais il hâte leur connaissance à ce niveau-là en leur disant fallait que la prophétie s'accomplisse, il fallait que le Christ souffre, et en faisant ce que vous avez fait, sans vous en apercevoir, vous avez accompli ce que Dieu avait annoncé par la bouche des prophètes. Verset 19. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Suite du message, on part toujours du début. Il leur met leurs conditions, le miracle. Ensuite de ça, la parole qu'ils n'attendent pas, la vérité. Le Christ devait souffrir. Et ensuite de ça, il leur donne le moyen d'adhérer à la foi, d'échapper au jugement, de prendre conscience que Dieu pardonne le péché, enlève les iniquités. Et c'est ce qu'on voit dans les restants des versets où Pierre va s'appliquer à leur dire ni plus ni moins convertissez-vous, venez au Seigneur pour que des temps de rafraîchissement, des temps de rétablissement, et il va donner des exemples. Il va donner l'exemple de Moïse au verset 22, et il va citer en fait Deutéronome chapitre 18, versets 18 et 19, que je vous lis maintenant, où le chapitre 18 de Deutéronome nous dit au verset 18, « Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi, je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, qu'il dira en mon nom, donc que Jésus avait déjà déclaré en quel nom il parlait, en mon nom, c'est moi qui lui en redemanderai des comptes. » C'est écrit tel quel dans la parole. Donc, il leur donnait des points de référence avec lesquels eux pouvaient avoir une pleine conscience de ce qui s'était passé. Le schéma de la prédication qui est fait ici par Pierre et Jean suit ce que moi j'appelle la règle de la condamnation, de la repentance et du salut. La règle de la condamnation, tu dis aux gens, vous avez fait cela. La règle, cette règle-là doit être donnée dans le message de l'évangile à l'autre, oh, viens petit Jésus, viens Jésus, ça va lui faire plaisir. Il aime ça quand les gens viennent à lui. Viens donc. Le vrai message, c'est, tu es un pécheur, tu t'en vas directement en enfer. Facile à dire? Non, pas facile à dire. Peut-être que des gens qui m'écoutent qui disent « Oh, tu t'en vas en enfer. Jésus a donné sa vie pour tes péchés et pour les miens aussi. Et le moyen de salut, ce n'est que cela. Le salut ne passe par aucun autre endroit. Il n'y a aucun un autre endroit, voie de sortie, voie de garage, porte d'en arrière par lequel le salut s'obtient. Et Pierre donne le message ici de les trois façons. Et ce qu'il va leur dire en leur donnant Deutéronome, il va leur dire, c'était dans la parole. C'était là. Accessible. Vous qui êtes dans le temple, qui entendez la parole, ni plus ni moins, vous auriez dû entendre, comprendre et adhérer. Et c'est pour cela qu'à partir du verset 24, il va dire, tous les prophètes qui ont successivement parlé, là, il va étendre la prédication. Il va dire, vous avez entendu large, là. Successivement parlé depuis Samuel, ont aussi annoncé ces jours-là, les jours dans lesquels vous vivez là. Vous êtes les fils des prophètes. Et là, il termine par l'exhortation. Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traité avec nos pères en disant à Abraham, « Toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. » C'est à vous, premièrement, que Dieu a suscité son serviteur et l'a envoyé pour vous bénir, en détournant chacun de vous de ses iniquités. Le message donné par l'apôtre Pierre, Pierre l'appuie sur différents piliers, si vous voulez. Commence par leur condition. Vous avez fait ça, vous avez fait cela et vous avez fait cela. Vous voyez cela, le miracle, entre autres, et ça s'accorde avec les Écritures, ça s'accorde avec les prophètes. Il amenait son message au niveau de ses interlocuteurs. Et ici, et il sait que si ces gens-là acceptent l'autorité du livre de Deutéronome, du livre de Samuel, des prophètes, eh bien, il y aurait moins de problèmes à l'identification que Pierre faisait avec Jésus du passage de Deutéronome, entre autres. Et il se verrait, ni plus ni moins, obligé de croire les paroles qui étaient données là. Parce qu'il trouverait des points de référence. Et c'est pour cela que souvent, quand je m'adresse aux gens, moi, à des gens qui ne connaissent pas l'Évangile, je commence par vraiment des conversations d'ordre général Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Es-tu marié? As-tu des enfants? Parce que dans les éléments que la personne va me donner, je vais pouvoir construire avec son vécu à lui. Construire, hein, si la personne, admettons, je vous donne n'importe quoi, là, si admettons, la personne est ingénieure, eh bien, je vais peut-être prendre des exemples de son domaine. Je vais peut-être prendre des paroles dites par des grands ingénieurs. Si je parle à quelqu'un qui travaille, admettons, en mécanique, eh bien, je vais peut-être lui citer des choses de mécanique, même si je ne suis pas mécanicien. Hein? J'ai déjà fait une prédication, pour ceux qui s'en souviennent, sur Éphésiens, où il est dit « Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant les louanges du Seigneur. » Et le thème de ma prédication, c'était s'entretenir. Et j'avais pris l'exemple d'une voiture. Je vous avais dit, une voiture, tu peux mettre la tête dedans, à part. Mais si tu ne donnes jamais d'entretien, à un moment donné, tu vas rester en panne. Ou carrément, elle ne bougera pas quand tu vas vouloir partir, t'en aller avec. Elle va être en panne. Si tu ne mets pas d'essence, si tu ne fais pas de changement d'huile, si tu ne fais rien sur la voiture, ça a besoin d'entretien. Ta vie, et c'est ce que j'avais déjà dit une fois à quelqu'un, ta vie a besoin d'entretien. Tu entretiens ton corps, tu le laves, tu le nourris, tu l'habilles. Souvent, on va entretenir notre âme, du moins une partie de notre âme, avec des bonnes lectures, des lectures riches. Mais ton esprit a besoin aussi d'entretien. Sinon, à mort. Ton âme, une certaine partie, a besoin d'entretien. Sinon, ça meurt, ces choses-là aussi. Donc, tout dépendant à qui on s'adresse, on adapte le discours. On adapte notre évangélisation. On adapte notre intervention. Si on s'adresse à des chrétiens pour les enseigner, on va adapter aussi les passages qu'on va prendre au niveau à laquelle nos interlocuteurs sont rendus dans leur vie chrétienne. Donc, Pierre s'est servi des Écritures pour dire quoi? Que le jour du Seigneur était arrivé. Et c'est ce qu'il leur dit à la fin. Pour que des temps de rafraîchissement viennent, pour que les choses changent. Le jour du Seigneur est arrivé. On va commencer maintenant à regarder, toujours dans la même pensée. On va quitter les messages d'évangélisation pour voir les conséquences des messages. On va regarder maintenant les conséquences positives, qu'on appellerait positives. Conversion de 5000 personnes, conversion de 3000 personnes à l'autre message et les réactions des personnes plus négatives à notre message. On aimerait qu'il y ait juste des réactions positives à nos messages. On aimerait, quand on annonce l'Évangile, que tous les gens disent « Right, bravo, où est l'Église? Je veux aller à l'Église pour prier. » Mais malheureusement, pas malheureusement pour vous, ça peut toucher votre petit orgueil, là, mais malheureusement pour eux, il y a des gens qui vont se railler. Il y a des gens qui vont s'amuser à tes dépens. Il y a des gens qui vont se moquer soit ouvertement ou plus caché, mais qui vont trouver que tu es un drôle de type, une personne bizarre, voire amusante pour eux. Soyons clairs. Donc, qu'on va voir à partir de là, les deux effets. Là, on a vu un effet et la parole de Dieu va nous dire à partir du chapitre 4, d'où on est rendu, et je tourne, c'est bien ça. Donc, à partir du chapitre 4 de Actes des Apôtres, on va nous donner maintenant la contrepartie, si vous voulez, ou la partie, plus exactement, la partie moins intéressante selon nous, où il y a moins d'amen, moins d'alléluia, mais qui est tout aussi véridique. La parole de Dieu ne nous cache rien, qui est aussi arrivée. Il y a des gens qui répondent par l'affirmative à de tels messages. il y a des gens qui répondent par la négative et il y a des gens qui répondent par l'hostilité. Il y a des gens qui répondent, voire par la violence. Soyons clairs. Dans Actes chapitre 4, à partir des versets 1 à 4, on va voir, si vous voulez, les problèmes que ça les a fait rencontrer. Vous savez, beaucoup de théologiens disent que l'Église a commencé au jour de la Pentecôte, ce que je partage avec eux, soit dit en passant, que la formation de l'Église a commencé là. D'autres disent que ça a commencé lorsque Pierre a fait sa déclaration dans Matthieu chapitre 16, verset 16, si je ne me trompe pas. On me reprendra si ce n'est pas exact. Oui, c'est Matthieu 16, 16, où Pierre a dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Certaines écoles de pensée disent que l'Église a commencé là. D'autres disent que l'Église a commencé quand Christ a formé le noyau dur des 12 disciples, qui a été la première Église. Moi, je partage beaucoup plus que l'Église a été formée à la Pentecôte parce que une était une confession de foi, celle de Pierre, via Jésus. Et le rassemblement des 12 disciples était une formation justement pour qu'ils deviennent des évangélistes, qu'ils deviennent des apôtres, qu'ils deviennent des gens qui annoncent. On a vu jusqu'à présent que les disciples jouissaient d'une certaine paix, que les disciples jouissaient d'une certaine tranquillité lors de leur message. Mais on va voir que maintenant, ça va changer. Après quelques temps, tout au plus, probablement quelques semaines, voire au mieux aller quelques mois, la relation entre les apôtres et les gens qui l'entendent, la parole se répand, il y a un nombre de convertis plus grand, et là, qu'est-ce qui s'organise? L'opposition. Qu'est-ce qui se fait? Il va commencer à se lever une opposition, voire une hostilité, vu les apôtres. Même si l'Évangile a commencé dans la paix, c'est sûr que l'ennemi va susciter, que ce soit à ton travail, que ce soit dans ton voisinage. Vous savez, moi, j'ai un voisin, il est déménagé, là. C'est pas moi qui l'ai fait déménager, soyons clairs. J'ai un voisin qui habitait près de chez moi. Il ne m'appréciait pas beaucoup, OK? Et quand j'ai eu des ouvriers qui sont venus travailler chez moi, le frère Jude en particulier, le frère Jude Lampron, il a signifié très clairement que, disons, je n'étais pas son meilleur ami. Et je me rappelle qu'un jour, il était en panne. Il était dans sa voiture, mais on était l'hiver et il n'était pas capable de sortir. Du trou de glace qu'il avait creusé. Et je me vois encore descendre avec mon seau de gros sel et de lui dire « Attends une minute. » Et je me rappelle qu'il a renfoncé sa tuque et il a levé son flanc. On y voyait à peu près juste les yeux. Et j'ai commencé à mettre du sel devant ses roues. « Tourne tes roues, recule à l'avant. » Puis quand il est sorti, il s'est dépêché de fuir les lieux, soyons clairs. Et je suis monté en haut et j'ai ri un peu, puis je disais à ma femme, et le monsieur était mal à l'aise, le monsieur était vraiment mal à l'aise. Il aurait préféré de rester dans son trou, que ce soit moi qui aille l'aider. C'est sûr et certain, bien-aimé, que si vous annoncez l'Évangile dans votre quartier, si vous annoncez l'Évangile dans des parcs, si vous annoncez l'Évangile dans votre travail, il va y avoir des gens qui vont trouver que vous êtes un chic type. Puis des gens qui vont trouver que vous êtes un sombre idiot. On va dire les choses telles qu'elles sont. Je me revois encore là, quelques années où ma femme, maintenant, elle a désespéré, la pauvre. Ma femme m'amenait dans le temps des fêtes, comme ça, plusieurs années, dans les centres d'achat. Elle aimait ça se promener où il y avait beaucoup de lumière. Pour ceux qui me connaissaient, vous savez que je n'aime pas beaucoup le magasinage. Et je me rappelle que je m'amenais des piles de traiter. Et je me rappelle que je rentrais dans certains magasins et je décorais le sapin avec des pamphlets que je mettais entre les branches. Et comme mon époux me disait, on va se faire mettre dehors, on va se faire mettre dehors. Soyons clairs, il y a des gens qui vont bien apprécier, il y a des gens qui vont moins apprécier, il y a des gens qui vont être sympathiques à la cause et il y a des gens qui vont vous être hostiles. Il faut que vous le sachiez, ça nous est arrivé, on n'est pas plus que le maître, ça va nous arriver. Ceci étant dit, malgré une certaine paix qui avait joui jusqu'à présent, là, on va voir les problèmes. Les problèmes vont surgir de deux endroits, de l'extérieur de l'Église et de l'intérieur de l'Église. Là, on va commencer à regarder ça. On laisse un peu de côté la partie d'évangélisation. C'est un livre qu'on étudie et on va regarder comment les problèmes surgissent. Non, je sais que ce n'est pas le meilleur sujet. Comment les problèmes surgissent? Si tu n'évangélises pas, si tu te tais, si tu es un chrétien silencieux, tu vas avoir moins de troubles. Le diable peut même faire un pacte de non-agression avec toi. Si tu décides d'ouvrir ta bouche, de parler, de dire ce que tu as à dire dans ta famille, si tu décides de dire ce que tu as à dire à ton travail ou partout ailleurs où le Seigneur t'amène, comme je vous ai dit, ça va avoir des effets sûrs. Il va y avoir des gens qui vont apprécier, il va y avoir des gens qui vont trouver que tu es un homme moral, il va y avoir des gens qui vont trouver, passe-moi l'expression encore une fois, que tu es un sombre idiot. Et il y en a qui sont plus hardis que d'autres, ils vont venir te le dire. Ils vont venir te dire, hey, mettez les mots que vous voulez, tant que ça ne va pas plus loin que ça doit aller, et ils vont vous donner leur pensée. Et ici, on en voit le début. Dans le verset 1 du chapitre 4, on va voir une réaction. Je vous ai dit tantôt, les réactions de l'extérieur et de l'intérieur. De l'extérieur des non-convertis et de l'intérieur des juifs sectaires. On va commencer par regarder ceux de l'extérieur. Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent les sacrificateurs, le commandant du temple et les sadducéens. Mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple et annonçaient en la personne de Jésus la résurrection des morts, ils mirent la main sur eux et les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Est-ce que vous vous rappelez à quelle heure que je vous ai dit la semaine dernière où Pierre et Jean ont monté au temple pour aller prier? C'était environ 3 heures de l'après-midi. Long discours dont on nous en rapporte juste une partie. Puisque là, après le discours, eux survinrent, on est déjà rendu le soir. Minimum que le discours a duré 3 heures. Soyons clairs. Minimum l'entretien a duré. Parce qu'à 6 heures, eux autres, je ne rentrais pas dans la chronologie, mais à partir de là, ils appelaient ça le soir. Okay? Soyons clairs. Car c'était déjà le soir. Cependant, verset 4, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre d'hommes s'éleva à environ 5 000. C'est beaucoup de personnes. C'est beaucoup de personnes. Ils ont eu du succès, mais ça a eu un coût, ça a eu un prix. Je parlais avec un homme dernièrement, il y a une semaine et demie. Je parlais avec un homme, et c'est ainsi quand je fais mes rencontres. On est en temps de COVID, c'est avec distanciation sociale, souvent dehors, dans un parc. J'ai un parc pas loin de chez moi, dans un parc où je vais tout simplement marcher avec les bien-aimés qui décident d'avoir une rencontre. Et les autres, ben, c'est à l'église, là, avec distanciation. Soyons bien, bien clairs. Et cet homme-là, je parlais un peu avec lui, il me disait qu'il aspirait au ministère. Qu'il aspirait au ministère. Je lui dis, c'est pas de savoir si tu veux aller dans le ministère. Un, est-ce que tu l'appelles au ministère? Et deux, est-ce que tu es prêt à souffrir ce que le ministère impose? Et là, il me regardait un peu. Non, je ne te parle pas de qu'on se fasse crucifier, ça pourrait arriver, mais pas de nos jours, en tout cas pas dans ce pays-ci. Ce que je suis en train de lui dire, il ne faut pas que tu penses que tu vas t'engager sur une voie le ministère à temps plein, puis que le diable va dire « Hey, bravo, je vais t'aider. » c'est sûr, il va tout faire pour stopper ta course. Il va amener toute l'opposition qu'il peut dans ta famille, à l'extérieur de ta famille. Le Seigneur peut même permettre que ça arrive dans ta santé. Quelquefois, on est testé à divers niveaux, soyons clairs. Ici, on en voit un. Le niveau extérieur, des gens qui vont faire de l'opposition. On prend les apôtres qui prêchent, qui enseignent. La parole nous dit ici que les sacrificateurs, le commandant du temple, les sadducéens, on va mettre les gens que je vous nomme là, on va les mettre dans leur rôle, là, OK? Mécontents de quoi? De ce qu'ils enseignaient le peuple et annonçaient en la personne de Jésus la résurrection des morts. On a une partie qui ne croit pas à la résurrection des morts, les sadducéens. Donc, eux autres n'étaient pas contents du tout. Les pharisiens, c'est eux qui enseignaient majoritairement. C'était leur rôle. Ils se font voler leur job. Je vous donne ça là, légèrement. Ils se font voler leur job. Puis le commandant du temple, ben lui, il était là pour garder l'ordre. Puis des gens qui enseignent, qui ne sont pas supposés enseigner, c'est du désordre. Soyons clairs. La parole de Dieu nous dit un résultat positif, 5 000 personnes. L'Église est rendue maintenant à cette croissance-là. Donc, cette croissance-là rapide du christianisme, qu'est-ce que ça va produire? Ça va alarmer le Sanhédrin. Pour quelle raison? Qui doit porter la responsabilité de la crucifixion de Jésus. C'est eux, si vous allez voir dans les évangiles, qui convainquent le peuple de demander la libération de Barabbas et la condamnation de Jésus. C'est sur leur impulsion, sur leur influence, qui demandent au peuple de faire condamner Jésus. Et ici, l'annonce que les apôtres sont en train de faire, c'est une annonce, en fait, qui lui dit, vous avez crucifié Jésus, vous avez crucifié le prince de la vie, vous avez agi par méconnaissance, par ignorance. Comment sont arrivés là, autres, les Sadducéens? Il y a quelqu'un qui a été cherchant quelque part, là, qui dit, hey, il y a des gens qui sont en train de dire des belles choses que vous avez faites, là. Et ces gens-là ont entendu et naturellement se rendent là, voient le message et décident d'intervenir, de couper le message. Qui étaient ces gens-là? Le Sanhédrin, c'était le principal conseil judiciaire des Juifs. C'est le Sanhédrin qui a condamné Jésus. Rappelez-vous, il ne fallait pas le condamner à mort, mais c'est eux autres qui l'ont livré à Pilate parce qu'il y avait ce pouvoir-là. D'accord? Donc, c'était le conseil judiciaire des Juifs. Leur pouvoir qu'ils avaient était principalement un pouvoir sur les questions religieuses, puisqu'ils étaient sous juridiction romaine. Rapidement, ça, c'était le Sanhédrin. Ce Sanhédrin-là était composé de deux éléments. Les pharisiens, le Sanhédrin était composé de pharisiens et de sadducéens. Les pharisiens, c'était ceux qui possédaient l'instruction des Écritures. C'était la classe des gens qui enseignaient. Les sadducéens, eux, appartenaient à la classe aristocrate, si vous voulez, dans le sens qui possédait l'administration de la fonction publique de l'époque, si vous voulez, des gens influents dans la politique d'alors. D'ailleurs, Jésus va leur adresser à eux des choses particulières, dont concernant les richesses, si vous allez lire dans les évangiles. Généralement, il était riche, attaché à l'argent, beaucoup plus qu'à Dieu, attaché à la tradition, tandis que les pharisiens, eux, se composaient de gens qui étaient beaucoup plus des scribes, qui écrivaient les Écritures, d'étudiants. C'est pour ça que Paul ne faisait pas partie des Sadducéens, faisait partie des pharisiens. Il dit, je viens de la secte la plus solide des pharisiens. Et ces deux classes-là formaient le Sanhédrin. Les pharisiens, bien qu'étant moins riches, moins instruits des choses sociales, étaient plus attachés à l'Écriture et surtout très, très, très attachés à leur tradition, avaient ajouté, ajouté, ajouté et ajouté à l'Écriture. Donc, c'est ces deux groupes-là qui formaient ce qu'on appelait le conseil du temple, qui avait le contrôle des lieux saints, le contrôle des gardes, le contrôle de ce qui était enseigné dans le temple. Les chefs religieux, ce contrôle-là arrive, voient les apôtres en train d'enseigner au nom de Jésus. Et parce qu'il n'y avait aucun droit, aucun pouvoir d'enseigner dans le temple, et parce qu'ils usurpaient leur autorité, et encore plus loin qu'usurper leur autorité, ils faisaient une interprétation des livres de Moïse, dont Deutéronome, soyons clairs, la prédication de Jean et de Pierre, non seulement menaçait cette position-là du conseil, ou du Sanhédrin, appelez ça comme vous voulez, à l'égard de Rome, parce qu'il disait que Jésus était Seigneur, et c'était très, très, très dangereux dans ces temps-là de faire Seigneur un autre que César. Un autre que César ne pouvait pas être Seigneur. Le seul Seigneur était César, on se comprend bien. Donc, eux étaient menacés dans leur position du conseil, mais étaient menacés aussi à l'égard de Rome. Parce qu'en menaçant l'autorité des dirigeants juifs, Pierre et Jean, en disant que Jésus était Seigneur, en disant aux gens de confesser que Jésus était aussi Seigneur, Pierre et Jean mettaient l'autorité du temple, le conseil du temple, le Sanhédrin, avec le garde, avec tout ce qu'ils avaient comme pouvoir, en danger face à Rome. En danger parce que Rome ne tolérait pas. Ça pouvait être considéré comme une sédition. Et là, et Rome ne tolérait pas que des hommes mettent en doute la seigneurie de César. Donc, deux éléments pour lesquels ils arrêtent. Première chose, dangereux politiquement, à cause qu'ils sont sous juridiction romaine. Deuxièmement, ce qu'ils trouvaient encore plus dangereux, ça mettait leur propre position, ça mettait leur propre autorité en position d'affaiblissement. Leur autorité face au peuple, leur autorité face à leur enseignement, face à l'ordre qu'eux mettaient dans le temple, était mise à mal par les déclarations de Pierre et de Jean, par les exhortations de Pierre et Jean. Parce qu'eux disaient que le Sanhédrin s'était trompé, que le Sanhédrin avait méconnu Jésus, qu'en fait, les Écritures qu'eux étudiaient, enseignaient, parlaient de Jésus et qu'ils l'avaient méconnu. Est-ce que vous pouvez vous imaginer un peu dans quelle position le Sanhédrin se trouvait à ce moment-là? Même s'il y avait eu guérison d'un boiteux, et je vous ramène là, et vous allez voir quand ils vont les prendre après, ils vont leur poser des questions pour s'assurer de certaines choses. Même si la position du boiteux était devenue une position à laquelle ils ne pouvaient pas nier, c'est-à-dire qu'il avait été guéri, vont les arrêter quand même, vont les jeter en prison quand même, parce que ils bousculent l'ordre établi. Non seulement ils bousculent cet ordre-là, mais ils mettent en doute le jugement des pharisiens, du Sanhédrin, et ils mettent en équilibre leur autorité face au peuple. Puis le Sanhédrin, ici, se voit imposer soit de reconnaître son erreur, ce que les hommes n'aiment pas faire généralement, soit de reconnaître leur erreur d'avoir condamné Jésus, ou soit de faire taire les apôtres. Eh bien, l'homme étant ce qu'il est, ils ont fait exactement ce qu'il était probable qu'ils fassent. Ils ont voulu les faire taire. Pour les faire taire, ils ont fait arrêter. La prédication de Pierre et Jean, on a vu tantôt, il est déjà 8 heures, on a vu tantôt que ça avait produit son effet. Donc, ici, je vais arrêter dans quelques minutes, là. Il ne faut pas penser que l'opposition va museler la parole de Dieu. Il ne faut pas penser que l'opposition va empêcher les conversions. Il ne faut pas penser que la COVID-19, ce qu'on vit là, va empêcher que Jésus, quand c'est arrivé, s'est pris la tête à deux mains et qu'il a dit, qu'est-ce qu'on va faire? Ils vont fermer les églises. Comment est-ce qu'on va faire ça? Non, non. Nous, en tant que corps pastoral, on s'est arrêté, on s'est posé des questions. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? Je me rappelle qu'on a parlé avec le pasteur Florent, il dit, on va commencer par prier. On va commencer. Puis ensuite de ça, on va se rencontrer pour voir qu'est-ce qu'on fait. C'était le bonheur de la suite. On va tous aller à la maison, on va prier. On se rencontre l'autre mardi. On se donne du temps. Prier. On va jeûner. On met ça en prière. Mais est-ce que vous pensez que on priait, puis on jeûnait, puis on disait, ben, Seigneur, qu'est-ce que tu vas faire, là, Seigneur? Si un de nous autres a prié de même, c'était pas dans la norme de la prière qui devait être faite, croyez-moi. Parce que Dieu connaissait ce temps-là. Et la COVID, d'ailleurs, n'a pas muselé l'Évangile, là, du tout, du tout, du tout. On s'est dirigé ailleurs. S'il n'y aurait pas eu de COVID, soyons clairs, et je vous dis clairement, là, je vous le dis sans ambages, et je suis très à l'aise de vous le dire, j'aurais sûrement jamais donné un cours par Zoom. J'aurais jamais, sûrement jamais fait ça. Il y en a un vieil adage qu'il ne faut jamais dire, jamais, là. Mais en tout cas, ce n'était pas dans mes intentions. J'aime mieux le présentiel, OK, soyons clairs. Mais à cause de la COVID, eh bien, j'ai dit, ben, il faut que le peuple reçoive quand même de la nourriture. Et on a parlé tout le monde ensemble. Bon, le pasteur Sergio a pris le mercredi. Le pasteur Florent a dit, bon, je vais organiser les dimanches. André, tu vas donner des enseignements le lundi. J'ai parlé avec lui. On a regardé les journées. On a choisi le lundi. Et on a décidé de mettre la machine en route. Mais pas de COVID, pas d'André le lundi, probablement. Soyons clairs. Je ne dis pas que vous auriez manqué quelque chose. C'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que la chose ne serait pas arrivée. Et peut-être qu'il y a un petit Chinois en Chine qui va écouter cette parole-là traduite par un ami francophone. Je ne sais pas. On ne sait pas. La vérité, c'est qu'on ne sait pas. Mais il ne faut pas douter que notre Dieu, malgré la persécution, malgré qu'on veuille, mettons, comme eux, ça lui est arrivé, les museler, les jeter en prison, que ça va faire taire l'Évangile. En rien. En rien, bien-aimé. La persécution n'empêche en rien l'œuvre de Dieu d'avancer. Et même, bien souvent, l'Évangile, et on va le voir un peu plus tard dans nos études, la persécution va faire étendre l'Évangile. La persécution, même au Moyen Âge, pour ceux qui lisent l'histoire et ainsi de suite, l'Évangile, le Nouveau Monde a été en partie colonisé par des gens qui fuyaient la persécution, les Huguenots, okay? Qui fuyaient la persécution, qui sont arrivés dans les Amériques, okay? Soyons clairs, et ont répandu l'Évangile. Soyons bien, bien, bien clairs pour terminer. Et la semaine prochaine, on va regarder un peu, là on a regardé la fin du message, on va regarder leur mise après ça en accusation, on va regarder les questions qui leur sont posées, les avertissements qui leur sont donnés, leur réaction, parce que ça fait partie de notre travail aussi, de comment on va réagir à la persécution, comment on va réagir. La persécution prend plusieurs formes, comment on réagit? comment on va réagir? C'est ça qui est important. Quelle est notre réaction à ces choses-là? On voit que l'Évangile n'est pas muselable. On ne peut pas museler l'Évangile. On voit que Dieu et sa parole ne peuvent pas être arrêtés, ni par le diable, ni par des humains. Soyons clairs. Et ici, on va en trouver un bon exemple la semaine prochaine. Je termine en vous disant ce que je vous ai dit tantôt. La prédication va toujours avoir ses tenants et ses opposants. La prédication de l'Évangile va toujours susciter une acceptation, une adhésion, et va toujours susciter aussi une persécution, va toujours susciter aussi des personnes, des institutions, des gens même des fois proches de vous qui vont s'opposer, va toujours aussi susciter une opposition. Si vous gardez dans votre pensée, bien-aimé, les deux choses, vous ne serez pas déçu. Vous ne direz pas, oh non, il m'est arrivé ça, je ne prendrai plus jamais de Jésus. Parce que quelqu'un, il y a un pasteur qui me disait, et ce pasteur-là, pour trois quarts d'entre nous, vous l'avez bien connu, c'est le pasteur Fontalvaux. À un moment donné, il annonçait l'Évangile dans un bus et la personne a craché sur lui. Et la réaction du pasteur Fontalvaux, dans le temps, il a sorti un mouchoir de sa poche, il a essuyé, il a dit à l'homme, ça c'est précieux. L'homme n'a absolument rien compris. Il a dit, ça c'est précieux. Dans le sens, c'était une forme d'opposition, voire de persécution, soyons clairs. Si vous gardez en pensée que l'Évangile va toujours susciter les deux, vous allez être des gens fermes. Vous ne serez pas déçus. Vous n'arriverez pas en bout de piste en pleurant. Si vous savez que si vous vous engagez, comme je disais à mon monsieur la dernière fois, s'engage dans une vie de ministère, le diable va te faire la guerre, mon ami. Je lui dis ça comme ça. Vous savez, le diable, des fois, fait des traités de non-agression avec des gens qui se convertissent. Vous en trouvez un, dans Exode, c'est l'image la plus frappante de cette négociation-là, où Moïse tient la place de Dieu et Pharaon la place du diable, où il commence à dire, « OK, vas-y, toi juste les hommes, les femmes, vous allez rester. OK, allez-y, mais laissez vos animaux. Là, non, allez pas trop loin dans le désert. » Il cherche à négocier. Quand on se convertit, c'est ce qui arrive. Le diable cherche à négocier avec nous. « Mais oui, vas-y avec des... » Pas comme eux autres là, qui sont malades, qui vont là trois fois par semaine. Là. Tu peux y aller une fois par semaine, une fois par deux semaines. Les assemblées durent longtemps, en plus. Pasteur prêche 1h30. Va pas là trop souvent. Tu es un bon chrétien. Si tu... Ah non, ne parle pas ça à ta famille. Ils ne sont pas prêts. Attends. Et ainsi, il va négocier avec toi. Il peut faire même un pacte de non-agression. Dire, crois juste pour toi-même. Là, puis, c'est correct. Là. Mais si tu te mets à évangéliser, si tu te mets à servir, si un homme de Dieu fait son travail, eh bien, c'est sûr qu'il ne restera pas les mains croisées et dire, hey, bon job. C'est sûr qu'il va te faire la guerre. C'est certain qu'il va te faire la guerre. Mais si tu es bien au fait qu'il va te faire la guerre, puis que tu fais entièrement confiance à Jésus, qui est, soit dit en passant, notre bouclier, eh bien, tu ne t'effraieras pas, tu ne t'énerveras pas, tu ne t'agiteras pas. Tu sais que ça fait partie, comme je disais à cet homme-là, qui va aller dans le ministère, ça va faire partie. Il va te faire la guerre, ça va faire partie des choses qui vont se présenter. Ceci étant dit, le message de l'Évangile a ces deux facettes-là. Si vous le réalisez comme il faut, si vous l'assimilez comme il faut, et si vous n'attendez pas un Évangile à l'eau de rose, eh bien, l'Évangile va vous construire. L'Évangile ne vous déçoira pas. Vous allez voir, ils ont été emprisonnés, ils ont amené devant eux. Ces gens-là n'étaient pas en déconfitude, là. Ces gens-là n'étaient pas tout défaits, là. Ces gens-là étaient encore bien solides, bien plantés dans leur foi. Parce que Jésus l'avait dit, Jésus avait prévenu. Jésus va dire dans l'Évangile que celui qui va croire en lui, va marcher avec lui, va avoir la vie éternelle, avec des persécutions. Et c'est exactement ce qui nous est arrivé. Donc, on va incliner la tête la semaine prochaine. On va reprendre au lendemain, c'est-à-dire le lendemain, il en va chercher les apôtres. Et on va regarder la suite, comment ils vont essayer de les museler, comment ils vont essayer de les faire taire, comment ils vont essayer de les de contenir le mouvement, de contenir ce qui peut leur nuire à eux. Et vous allez voir que les moyens n'ont pas beaucoup changé. Les façons de procéder peut-être, mais la pensée humaine, l'humain reste ce qu'il est. Donc, nous allons prier. Seigneur, merci Seigneur pour ce temps que j'ai eu avec ton peuple pour la parole. J'apprécie toujours, Seigneur, même si ce n'est pas comme moi je le désire en présentiel, j'apprécie toujours, Seigneur, de pouvoir partager cette parole de vie, Seigneur, qu'est la Bible. Cette parole de vie, Seigneur, qui nous remplit de vie, ô Dieu. Seigneur, tu connais, Seigneur, ton peuple, tu connais les conditions de ton peuple au moment où je prie. Tu vois où ton peuple en est rendu dans sa réflexion, dans ce qu'ils vivent, dans ces temps de pandémie, dans ce qu'ils vivent à leur travail, dans ce qu'ils peuvent vivre dans leur famille, les tenants et les aboutissants peut-être de leur annonce de l'Évangile. Tu vois ce à quoi ton peuple est astreint, Seigneur. Et toi, Seigneur, tu es, Seigneur. Tu es, Seigneur, celui qui construit, qui bâtit l'Église, qui ajoute à l'Église. Mais tu es aussi celui qui purifie l'Église, qui, comme le pasteur Florent, qui dit, qui émonde, qui retranche les parties qui sont à retrancher pour que l'arbre demeure en santé. Donc, Seigneur, que ces exemples que nous prenons dans ta parole, Seigneur, de réussite, conversion de 5 000 personnes, de réussite aussi d'avoir secoué le royaume des ténèbres, puisque les apôtres se sont fait persécuter. Seigneur, on ne doit pas s'étonner en rien de ces choses. Tu nous as donné des exemples dans ta parole pour que nous soyons des gens au fait de ces choses. Et non pas qui sont tombés dans l'étonnement parce qu'il nous arrive quelque chose qu'on n'attendait pas. Seigneur, ta parole, Seigneur, c'est la vérité. Et tu nous as annoncé dans ta parole la vérité, sans rien retrancher. Les apôtres ont été pris, ont été jetés en prison, mais il y a eu 5 000 conversions, Seigneur. 5 000 personnes qui ont eu cette conviction-là de péché, de justice et de jugement. Seigneur, l'expérience qu'on fait de l'évangélisation, l'expérience qu'on fait de l'annonce de l'Évangile a des tenants très positifs et peut avoir des tenants du point de vue humain, du point de vue de la chair, du point de vue des autres qui nous regardent. Négatif. Parce que l'ennemi va prendre les instruments qu'il a en main pour persécuter. Donc, Seigneur, donne à ton peuple toute la confiance, toute la hardiesse dans ces temps, Seigneur, pour annoncer le plan du salut, pour annoncer ta parole comme il se doit, Seigneur. Seigneur, que ta parole, Seigneur, que j'ai prise ce soir avec ton peuple, puisse nous construire, nous bâtir et nous amener à être des chrétiens matures en toi. J'ai prié en ton nom, dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. On reprend cela la semaine prochaine en regardant un peu comment le Sanhédrin ont réagi, mais surtout comment les apôtres on réagit face à la persécution, ce qui doit être aussi notre réaction à nous. Soyez bénis.